Chapitre 50. Le fonctionnaire de garde dans les locaux de la police de Killin connaît bien le gérant de la gare routière, Dennis Van Horn. Il l'appelle chez lui et lui passe Egon Godfrey. D'après Van Horn, le chauffeur du bus dans lequel sont montés les Hawks, Lonnie John Breaker, était censé repartir de Houston au volant du bus de 16 heures à destination de San Antonio. L'arrivée était prévue à 19h10, et comme il est 19h26, il est probable que Breaker se trouve toujours sur place afin de remplir son rapport. À 19h39, Godfrey parvient à joindre le chauffeur par Skype. Assis face à un ordinateur dans le petit bureau prêté par le policier de garde, il est encadré par Vince et Rupert. Breaker est un homme robuste et presque chauve d'une cinquantaine d'années. Son visage rond affiche une bonhomie communicative qui le rend instantanément sympathique. Il fronce les sourcils, le visage penché en direction de l'écran sur lequel Godfrey ressemble à une marionnette.
Sans vouloir vous vexer, rien ne me dit que vous êtes vraiment à Killin. En plus, quand vous avez montré votre badge à la caméra tout à l'heure, je n'avais aucun moyen de savoir s'il était vrai ou si vous l'aviez trouvé dans une pochette surprise.
Les interrogatoires par Skype sont pratiques et permettent de gagner du temps, mais ils rendent difficile toute manœuvre d'intimidation. Godfrey est contraint d'user de patience. Monsieur Titus, le chef de la sécurité à la gare routière de San Antonio, vous a confirmé mon identité.
Sans vouloir le vexer non plus, je ne le connais pas plus que vous. Je devrais peut-être contacter un avocat.
Nous ne vous soupçonnons de rien, monsieur Breaker. Nous vous interrogeons en qualité de simple témoin dans le cadre d'une affaire d'importance nationale.
J'ai passé ma journée à conduire un bus d'un bout à l'autre du Texas. Je n'ai vu que des kilomètres d'autoroute et mon lot de conducteurs de merde. Je doute que le FBI s'intéresse au type qui roule trop vite ou qui colle au cul du véhicule précédent.
Le grand ordonnateur a bien prévu son coup. Il s'est arrangé pour qu'il soit impossible par Skype de frapper un crétin de témoin quand on perd patience.
Je tiens à préciser que si vous ne me soupçonnez de rien, et si je n'ai pas besoin d'avocat, rien de ce que je peux vous dire ne pourra être utilisé contre moi.
Poursuit Breaker en levant la main comme s'il jurait sur la Bible. Nous sommes d'accord, réplique Godfrey. J'ai envoyé deux photos à Monsieur Titus en lui demandant de les imprimer et de vous les montrer. Le regard de Breaker se pose brièvement sur les portraits posés devant lui. Il plisse les paupières avant de répondre.
Vous voulez savoir quoi?
Je voudrais savoir si l'homme et la femme des photos ont voyagé à bord de votre bus aujourd'hui entre Killin et Houston.
Je m'en souviens. D'elle, en tout cas. Elle doit avoir dans les 60 ans, mais c'est encore une belle femme et j'ai bien vu que je lui plaisais. Beaucoup de passagères considèrent les chauffeurs de bus d'un œil romantique, tout ça parce qu'on navigue de ville en ville.
De quelle façon lui plaisiez-vous? S'étonne Godfrey, qui voit mal Claire Hawkes s'intéresser à un type tel que Breaker.
Le chauffeur se cale confortablement sur son siège en arborant un sourire satisfait.
Sans vouloir vous vexer, si vous n'êtes pas capable à votre âge de remarquer la lueur dans le regard d'une belle femme, vous êtes perdu pour la science.
Vince Penn laisse échapper un ricanement et Godfrey se retient de lui coller une balle entre les deux yeux pour le supprimer du scénario. Il préfère remettre le chauffeur à sa place.
Monsieur Breaker, pouvez-vous me dire où ces deux personnes sont descendues? Comme c'était un trajet direct, elles sont descendues à Houston.
Vous souvenez-vous de les avoir vus descendre? Breaker réfléchit avant de répondre.
Si ça se trouve, ils sont descendus pendant que je vidais le compartiment à bagages.
Cet homme et cette femme avaient-ils des bagages, justement?
Peut-être des bagages à main, ou peut-être même pas.
Il se trouve que nous avons visionné les images des caméras de sécurité de la gare routière de Houston et que ces gens ne sont pas descendus du bus. Breaker prend un air perplexe.
Je comprends pas.
Une fois que vous avez rendu leurs bagages aux passagers,
Remontez-vous à bord du bus afin de vous assurer qu'il est vide ?
Je parcours en général l'allée centrale pour jeter un coup d'œil. Il n'y avait personne.
Le bus est-il équipé de toilettes ?
Oui, bien sûr.
Vérifiez-vous que les toilettes sont vides ?
Ça m'arrive.
Ce n'est pas systématique ?
C'est pas mon boulot de nettoyer les toilettes, rétorque Bricker sur la défensive. La seule raison de vérifier, comme on manque pas de passagers toxicaux, c'est au cas où l'un d'eux se serait fait une picouse ou serait mort sur le trône d'une overdose.
Avez-vous déjà été victime de ce genre d'incident ?
Non, mais ça arrive.
Vous n'avez donc pas vérifié les toilettes aujourd'hui ?
Je transportais uniquement des gens normaux. J'ai pas eu un seul souci entre Killeen et Houston.
Que devient le bus une fois les passagers repartis avec leurs bagages ?
J'en ai conduit un autre jusqu'à San Antonio. Celui de Killeen, il a été nettoyé, on lui a fait le plein et tout le nécessaire. Je sais pas exactement comment s'y prennent les gars de l'entretien. Faut leur poser la question.
Bon, je peux y aller maintenant ? Ou alors je suis dans le pétrin ? Pourquoi seriez-vous dans le pétrin, Monsieur Bricker ?
Je sais pas. Ce serait pas la première fois que la police se tromperait.
Godfrey laisse s'écouler un silence avant de réagir. Vous n'êtes pas dans le pétrin, mais il serait négligent de ma part de ne pas vous alerter sur le fait que mentir à un représentant du FBI est un délit. Cette fois, c'est Bricker qui observe un silence.
Je vous ai pas menti. Je vois pas bien comment. Je me suis contenté de conduire ce bus de Killeen à Houston.
Vous m'en voyez ravi, Monsieur Bricker. Nous finissons invariablement par savoir quand on nous ment.